Et toi, c'est quoi ton taf ?
Hello ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton taf ? Alors, avant toute chose et de commencer à vous faire cette intro, désolé pour les potentiels bruits de travaux que vous allez peut-être entendre. J'avais pas le choix d'enregistrer aujourd'hui, mais là il y a des travaux en dessous de chez moi et malheureusement le micro capte ces bruits bien chiants. Normalement ça devrait aller, mais quand même vous êtes prévenus, désolé. Alors aujourd'hui, c'est le parcours et le travail de Didier, responsable du salon de massage Salvea à XL, que vous allez pouvoir découvrir. Et Didier, j'ai presque envie de le décrire comme un personnage. Le genre de personnes qui, bah, vous le savez même sans réellement les connaître, ont eu mille vies et ont énormément de savoir et d'histoires à raconter. Au-delà de ça, sa personnalité et ce qu'il dégage sont vraiment ultra apaisantes, ce qui vient peut-être, sûrement d'ailleurs, du travail qu'il a pu réaliser sur lui tout au long de sa vie, et plus particulièrement en côtoyant le monde du massage. Vous en saurez plus d'ici quelques minutes. Mais pop, juste avant d'assouvir votre curiosité par rapport à cet épisode, je vous rappelle que si ce que vous entendez vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit et ça aide à visibiliser mon travail, ainsi qu'à mettre une bonne note à cet épisode si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis vous pouvez aussi venir me faire vos retours sur le compte Insta de l'émission, c'est quoi ton taf, tout attaché, tiré du bas, podcast. Je disais donc que Didier a réellement été des plus intéressants à écouter. Il nous parle de comment il s'est retrouvé à gérer son salon, vous trouverez d'ailleurs le site internet de Salvea Massage dans les notes de l'épisode, et partage quelques anecdotes vécues au cours de ses années de pratique. On parle également d'autres sujets, tels que du rapport des gens à leurs émotions, de comment prendre soin de soi et de sa santé autrement que par des moyens dits traditionnels, et de l'importance d'écouter son corps et son cœur. C'était vraiment un épisode très chouette à tourner et j'aurais personnellement pu continuer à écouter Didier parler de sa profession pendant longtemps. Encore merci à lui de m'avoir fait découvrir son univers et de m'avoir accordé un petit peu de son temps. Allez, c'est parti!
Donc là je dirige donc le centre depuis 15 ans. Le travail c'est non seulement faire des massages ici en cabine, mais également là j'ai une petite équipe à gérer. Donc selon les demandes, ben, voilà, c'est d'appeler les autres masseurs et masseuses. On est 4 en tout. Je donne également des formations et des ateliers de massage. Donc là aussi, c'est préparé comme maintenant. Là, la semaine prochaine, j'ai une formation de dos qui va durer 4 jours. Donc c'est préparé le syllabus, également toutes les formes administratives, fiches d'inscription à envoyer aux participants, etc. Donc voilà, c'est une gestion un petit peu globale de tout le centre. Il y a également au niveau nettoyage, j'ai un peu délégué justement depuis quelques mois. Donc il y a une société qui vient nettoyer les locaux. Mais c'est aussi, oui, la gestion vraiment globale du centre.
Que vous avez créé, vous ?
Le centre a été créé il y a 19 ans par Daniel. Donc c'est pas moi qui ai créé le centre. Moi je suis arrivé il y a maintenant 15 ans, 16 ans, ici en Belgique, parce que je viens de France au départ. Et je pratique des massages depuis 20 ans et plus de 20 ans. Donc lorsque je suis arrivé ici à Bruxelles, j'ai démarché tous les centres de massage pour voir quel centre était intéressé par mes services. Et je suis tombé sur ce centre-là, Salvea. Ça a très très bien marché avec le gérant de l'époque et au niveau de la clientèle aussi. Les gens étaient très contents. Donc seulement quelques mois après, il y a eu un bouleversement dans ma vie. Où en fait Daniel, qui était donc le créateur du centre, lui est reparti en Suède. Il est mi-français, mi-suédois. Et moi, il m'a demandé si je voulais reprendre le centre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai saisi l'opportunité sans jamais avoir pensé au départ m'occuper d'un centre pour. Je pensais peut-être le faire en solo. Mais de là, avoir une petite équipe et puis un centre, c'est pas un gros centre, mais on a 3 cabines et.
D'accord. Ouais. Donc vous êtes français et vous avez eu une formation de masseur en France où est-ce que vous avez appris cet art ? Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un art, mais...
En fait, toutes les premières formations que j'ai faites, j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Thaïlande et en Inde, surtout en Inde. Mais c'est en Thaïlande que j'ai fait mes premières formations, donc il y a une vingtaine d'années, à Bangkok, à Chiang Mai aussi dans le nord du pays. et où j'ai appris le massage thaïlandais, la réflexologie plantaire. Donc ça s'est passé en Thaïlande. J'ai fait aussi 2-3 formations en Inde. Et puis après, ici, quand je suis arrivé ici aussi en Belgique, je me suis formé au massage suédois qu'on propose ici, qu'on appelle aussi massage classique, qui est une autre approche. Voilà, et puis après j'ai fait d'autres petites formations comme ça, à droite, à gauche.
Ouais. Ok, d'accord. Comment ça se passe en fait une journée ici en tant que gestionnaire, directeur du centre? Est-ce que vous-même vous pratiquez des massages aussi? Vous avez des rendez-vous? Parce que je suppose que vous gérez, donc votre équipe, etc. Mais est-ce que vous pratiquez vous aussi des massages au quotidien?
Oui. Enfin, ma première mission, elle est... Ok, je gère, donc c'est... Ça a été une chance quelque part parce que j'étais au départ quelqu'un de j'ai eu plusieurs vies hein, dans mon existence.
D'accord.
Donc il y a eu avant d'arriver ici, voilà, j'étais plutôt dispersé et donc le massage m'a permis vraiment de canaliser vraiment mon énergie et en l'occurrence de gérer un endroit voilà public. C'était assez marrant au départ. Ça, j'avais souvent une comparaison. Au départ, je le faisais un peu en dilettante, en solo, et donc c'était un petit peu comme si je conduisais une deux chevaux, une petite voiture de petit calibre. Et puis, lorsque je suis devenu le gérant, propriétaire aussi, parce que depuis 13 ans, j'ai acheté le lieu. Donc c'était un peu comme si j'avais un gros bolide, genre Ferrari. Et effectivement, là, on passe de 1-2 massages parfois par jour à plus. Et puis une charge de travail aussi beaucoup plus importante.
D'accord. Ça m'intéresse, vous disiez que vous étiez assez dispersé avant, vous aviez eu plusieurs vies, etc. Quelles étaient ces vies, si vous êtes d'accord d'en parler, avant de vous lancer dans le massage, quel a été le cheminement en fait pour arriver à cette passion-là?
C'est un chemin assez tortueux, on va dire. J'ai mis longtemps avant de trouver vraiment la voie, on va dire.
Okay.
Puisque quand, maintenant aujourd'hui, j'ai 55-56 ans et donc quand je suis arrivé et que j'ai pris la direction, j'avais 40 ans, donc c'est assez tardif on va dire. Mais avant, oui, j'ai vécu en France, mais aussi pas mal, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé à un moment donné pendant 8 ans, j'ai fait des allers-retours entre la France et puis surtout l'Inde, où je passais plusieurs mois là-bas. Et en fait, le déclic, c'est que voilà, je me suis perdu dans pas mal de choses. J'ai fait plein d'expériences dans plein de domaines avec également des pas mal d'addictions au niveau des drogues, au niveau voilà, j'ai fait plein d'expériences dans ma vie. Et puis à un moment donné au niveau santé, ça n'allait pas beaucoup et donc en fait le premier voyage là-bas en Asie et surtout en Inde, ça a été le déclic parce que ça a été une prise de conscience sur mon corps. Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que je pouvais intervenir sur mon état de santé par des pratiques, que ce soit le yoga, méditation, etc. Et j'ai constaté assez rapidement que, tiens, oui, je pouvais moi-même... j'avais un pouvoir d'avoir une meilleure santé. Donc voilà, ça a été le cheminement et puis le...
C'est le fait de voyager qui vous a fait avoir vraiment ce déclic, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui justement prônent le voyage pour se ressourcer, se recentrer, avoir des déclics. Et voilà, d'autres qui disent, mais en fait, quand on voyage, nos problèmes nous suivent. Et en fait, dans votre cas, vous, ça vous a complètement aidé, en fait. Enfin, ça vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, j'ai l'impression.
Oui, l'aventure après le voyage, ça peut être effectivement une fuite quelque part, mais aussi ça peut être un moyen de voir voilà, d'autres réalités qu'on n'a pas dans notre système ici en Occident. Donc d'autres façons de penser et d'autres façons de promouvoir en quelque sorte la santé, l'énergie. Et c'est assez frappant quand on va en Inde. Quand je parle de l'Inde, c'est vraiment particulier. Bon, j'ai aussi voyagé un peu en Thaïlande, mais pour moi, c'est deux mondes vraiment différents. Et ce qui peut choquer un petit peu pour les gens qui entreprennent le voyage en Inde pour la première fois, bon, y a la misère, etc. Enfin, c'est un choc émotionnel et au niveau sensoriel aussi, c'est très très fort parce que tous les sens sont mis à contribution. On voit, on entend, on sent, on mange, tout. Voilà, donc c'est exacerbé. Et ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était de voir comment ces Indiens, voilà, eux parlent d'une énergie et d'avoir le full power, donc la pleine puissance. Et voilà, ils ont le full power, effectivement, ils sont tout le temps au taquet, on va dire. Et donc, ça a été, oui, la première fois, c'était un choc. Et donc, je suis revenu, en fait, pour essayer de comprendre d'où il tenait, en fait, cette énergie, d'où ça venait, d'où... Voilà, donc j'ai compris certaines choses, pas tout, mais par rapport à ce que j'ai compris, ben oui, il y avait d'abord un travail déjà au niveau du corps, parce que le corps est un peu notre temple, et déjà à partir de là, ben, on peut gérer certaines choses au niveau émotionnel, au niveau mental, spirituel, etc. Et voilà, donc je suis parti dans ce cheminement de travail sur le corps, et en fait... Une des choses aussi, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à masser, je prenais beaucoup de plaisir à masser. Et puis, avec le temps, je me rends compte que si je masse et si j'ai choisi cette profession, c'est aussi un moyen de s'auto-guérir aussi. Donc, c'est non seulement on apporte du bien à la personne, mais en fait, en retour, quand l'énergie circule vraiment bien et quand on est bien dans ce qu'on fait, c'est-à-dire centré et avec quelques, il y a quelques règles de base comme le positionnement, comme la respiration, etc. Ben, véritablement, chaque massage que je vais donner, par exemple, c'est une sorte de méditation, on va dire, avec les yeux ouverts, évidemment, mais où dans cet instant, je suis là à 100%. Et effectivement, quand on est dans le présent à 100%, ben, ça fait une énorme différence avec le monde qu'on peut projeter, toutes les images mentales qu'on peut se créer, etc., qui peuvent amener des perturbations, des difficultés à gérer ses propres émotions. Donc pour moi, vraiment, le massage, ça m'a permis vraiment de canaliser cette énergie et de pouvoir gérer. Ben, après, je suis comme tout le monde, hein, un être humain avec des hauts, des bas. Mais voilà, il y a...
Le truc qui vous canalise, quoi.
Exactement. Ouais. Exactement. Parce qu'il faut juste se rendre compte que, évidemment, les personnes viennent ici pour se détendre. Et donc, à la base, j'ai plutôt intérêt à être aussi détendu et être à l'aise dans mon corps. Si je ne le suis pas, ça va devenir vraiment galère. Et très rapidement, c'est une des choses dont on fait l'expérience assez rapidement en massage, c'est que y a vraiment des transferts d'énergie entre... Je vais vous prendre juste un petit exemple. Avec une même technique de massage, mais sur deux personnes différentes. Ouais. Avec une personne, je vais me sentir très très bien, et puis voire revigoré après la fin du massage. Et puis alors que j'ai utilisé la même technique avec une autre personne, où ça va être beaucoup plus fermé, ça va être un peu plus difficile, okay. Je peux prendre en quelque sorte tout le négatif. Et si j'oublie d'expulser ça et de décharger tout ça, ben, les humeurs, ben, le client sera très content parce qu'il va se sentir beaucoup plus léger. Par contre, pour moi, ça va être beaucoup plus galère et on fait vraiment très très vite l'expérience. Avant le massage, je suis en pleine forme. Après le massage, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Je me sens fatigué ou je me sens voire un petit peu stressé ou un peu miné comme ça de l'intérieur. Il n'y a pas de règle générale, parce qu'en fait, c'est vraiment particulier à chaque personne. Il y a des personnes pour qui, par exemple, le yoga va vraiment convenir. Mais pour d'autres personnes, ça ne va pas convenir du tout, parce que voilà, dans prendre certaines postures, etc., ça ne va pas, ça ne convient pas. Il y a des tempéraments différents. Donc, il y a des personnes pour qui le yoga, ça va être mieux, ça va être très bon, d'autres pas. D'autres vont préférer et vont sentir plus à l'aise avec, par exemple, le tai chi, le qigong, qui sont des techniques sur le corps, plus en mouvement, où ça va convenir, là aussi, à un type de personne. Les méditations, c'est pareil. Il n'est pas utile. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive de faire quelques méditations en position de tailleur, mais assez rarement, en fait. Parce que j'ai trouvé ma voie aussi, et par le massage, comme je vous disais, c'est une méditation en permanence. Donc là aussi, la méditation, il y en a pour qui ça convient tout à fait. D'autres, c'est pas le bon credo. C'est vraiment à chacun de trouver sa voie, en quelque sorte, avec cet objectif, voilà, de... Au niveau du corps, ben on a un système, ce qu'on appelle un système énergétique, donc on a une énergie qui, tous les jours, fluctue, bouge, et c'est un peu cette recherche, effectivement, pour chacun, de voir qu'est-ce qui peut nous aider à faire que cette énergie, elle ne stagne pas, parce qu'en fait, quand l'énergie commence à stagner, à certains endroits du corps, elle va impacter aussi ce qu'on appelle les organes internes. Et une des grandes différences entre la médecine occidentale et orientale, c'est que chez les orientaux, donc là je parle plutôt de la médecine chinoise, médecine indienne, etc., chaque organe en fait a non seulement une fonction physiologique, mais aussi émotionnel. Un exemple très très connu, le foie, pour nous en Occident, voilà, il est là, il a différentes il a plein de fonctions au niveau physique et au niveau émotionnel, non, on n'a pas ce background en quelque sorte, on n'a pas ce retour. Alors qu'en médecine chinoise, le foie est par exemple associé à la colère, frustration, refoulement. Et je vais juste là aussi vous prendre un exemple pour voir. Pour que vous compreniez un petit peu comment ça peut marcher, c'est que donc parfois ça peut être effectivement vous allez manger beaucoup de viande rouge ou beaucoup d'alcool, beaucoup de chocolat, etc. Évidemment là le foie va réagir, mais parfois j'ai des clients qui viennent ici et qui ont une alimentation parfaite, une hygiène de vie parfaite, et malgré tout il y a le foie qui a des problèmes, et donc sur ce terrain là toutes les émotions, si vous voulez, sont bonnes à exprimer, à être exprimées. Donc c'est la colère, comme le chagrin, etc. Ça doit vivre. Et donc quand il y a de la colère, il faut l'exprimer aussi. Tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer dans le corps. Ça va aller là, en général, où on a chacun un terrain plus vulnérable. Le foie, d'autres ça va être les reins, d'autres ça va être... on a chacun des faiblesses. Et donc ça va aller à tel organe, et effectivement la circulation énergétique dans le corps va être bloquée, ce qui va amener non seulement des problèmes physiques avec des tensions à certains endroits du corps, mais aussi des états émotionnels perturbés. On va se sentir plus stressé, plus en colère justement. Là je vous parlais du foie. Le foie, c'est toujours une histoire de moyenne en quelque sorte. Voilà. Le but c'est d'être à peu près dans la moyenne. Mais c'est d'éviter un petit peu les extrêmes, en quelque sorte. Et dans le cas du foie, comme avec tous les autres organes, voilà, quand j'ai trop de colère, alors là, je vous parlais de clients, par exemple, qui viennent pour un massage, et puis je détecte ou j'ai l'information que le foie, il y a des petits soucis. Donc, comme je vous disais, ils ont une alimentation parfaite, donc ils sont étonnés. Quand on vient sur le terrain donc, émotionnel, je leur demande, et ça va au niveau colère en ce moment Ah oui, ben justement, là, depuis quelques jours, là, je suis remonté, je ne sais pas pourquoi.
C'est fou. Et vous arrivez à distinguer ça rien qu'en massant. Si elle ne vous dit pas que, au cours d'une conversation que vous pouvez avoir avec elle, qu'au niveau colère, c'est pas trop ça pour le moment. Juste au travers d'un massage, vous pouvez arriver à détecter que la personne a son foie qui déconne un petit peu.
Voilà, au niveau du corps, on a des points, que ce soit au niveau des pieds, au niveau des mains, mais aussi ce qu'on appelle les méridiens. Donc ça, les méridiens, ça appartient à la médecine chinoise. Et donc chaque organe interne a des trajets très très précis au niveau du corps. Et donc pour le praticien que je suis, ou pour tout praticien, qui connaît un peu tout ça, il suffit d'aller à ces endroits-là et en général, quand la circulation énergétique est bonne, au niveau de la peau va être assez flexible et élastique. Quand il y a des stagnations, on sent comme des cordes tendues ou comme des points aussi. Ça, tout le monde peut l'expérimenter, l'a déjà ressenti. Tiens, là j'ai mal, là où j'ai un point qui me fait mal. Oui, là, c'est un blocage, effectivement. Donc, ça cristallise, en fait. Vous voyez, les émotions, je reçois une émotion. Si je ne l'exprime pas, donc, comme je vous disais, ça va s'imprimer et ça va se cristalliser, en quelque sorte. Cette émotion que j'ai, ce stress, par exemple, intense que j'ai, si je ne le sors pas, petit à petit, ça va se cristalliser dans mon corps. Et comme je vous disais tout à l'heure, à certains endroits où je suis plus vulnérable, où je suis plus sensible.
Ok. Oui. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que vous faites aussi un petit peu un travail. Vous gérez, par exemple, si vous avez une personne qui vient et qui vous dit qu'elle a mal au dos, ou voilà, ou qui vient peut-être juste pour se détendre, en fait, finalement, vous lui faites du bien au corps, mais finalement, ça se répercute sur le bien-être mental aussi.
Immanquablement, enfin, on sait que tout est vraiment intrinsèquement lié entre que ce soit le corps, l'esprit, le cœur aussi. Et donc, ben, effectivement, une des différences aussi avec la médecine occidentale, quand on parle de santé ici en Occident, on parle souvent d'absence de maladie. Alors qu'en fait, chez les Orientaux, l'état de santé, un bon état de santé, c'est quand il y a un bon équilibre entre le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Voilà. En sachant que, comme je vous disais, ben, tous les jours, voilà, aujourd'hui, je suis super détendu, etc. Il se peut que demain, je me réveille et que ça soit changeant aussi. Donc tous les jours, ben, comme le temps, voilà, ça fluctue. Mais une des différences aussi, c'est que quand on en a la conscience, voilà, bon, on sait que il faut accepter. Il y a aussi un travail d'acceptation, etc.
Oui, bien sûr. Comment vous faites pour ne pas, vous, dans votre cas personnel, quand vous levez un matin, vous vous rendez compte que voilà, vous êtes stressé ou peut-être un peu plus triste ou vous êtes un peu envahi d'une émotion plus négative. Comment vous faites pour pas tomber dans cette positivité obligatoire, toujours essayer de se dire bon, on est triste, mais on va quand même essayer de pas d'enfuir cette tristesse, mais de voilà, se donner un petit coup de pied aux fesses. Et comment vous faites pour pas tomber là-dedans et pour peut-être aussi accueillir ces émotions négatives? Vous avez des techniques, comment est-ce que ça se passe?
Quand on a, et c'est ce que je disais un petit peu au départ aussi, quand on a une émotion qui veut s'exprimer, que ce soit la tristesse, la colère, etc., il faut que ça s'exprime. Il faut lui permettre, et donc d'accueillir cette émotion. Parce que si on... Ok, j'ai une tristesse, une grosse tristesse, et je dis oui, mais je vais mettre ça un peu de côté, et de toute façon, il faut être positif. On ne va pas se rendre service, parce que cette émotion-là, elle est là pour une chose bien précise. Elle est là parce qu'elle veut nous faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas être pas tout à fait dans le bon sens. Et justement, ben, cette émotion-là, on peut s'en servir pour un petit peu décrypter, décoder en quelque sorte ce que le corps veut dire.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes en fait, qui sont... pas du tout ouverte à ce genre de pratique, de massage, de spiritualité, au sens où vous l'entendez, etc. Est-ce que ça vous arrive d'en rencontrer, ou même dans votre entourage, etc. Comment est-ce que vous inviteriez ces personnes à tester, en fait, par exemple, un massage, ou en tout cas à plus s'ouvrir à ces pratiques?
Mais des personnes, oui, je même un petit peu tous les jours, il y a parfois des personnes aussi qui sont très rationnelles et qui viennent simplement pour un massage de détente et c'est très bien. Oui, c'est une sorte d'invitation à une sorte de voyage, en fait, c'est une sorte de processus, parce que la personne qui n'y croit pas, voilà, je vais l'inviter par exemple à venir recevoir un massage. Je vais vous prendre un exemple là aussi. J'ai des personnes qui viennent pour la première fois, qui ont de l'appréhension. Ils vont être touchés, donc, et puis c'est leur premier massage de leur vie. Et puis ils se rendent compte, bon, après la séance, ok, ça peut détendre un petit peu, etc. Ça peut calmer aussi, apaiser un petit peu le mental. Et puis ils se disent, tiens, pourquoi pas. C'est vraiment un processus. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et puis, il y a peut-être des personnes pour qui ça renvoie un petit peu aux techniques qu'on parlait au départ. Il y en a pour qui ça va convenir, d'autres pour qui ça ne va pas spécialement convenir. Et c'est... Ici, voilà, on va travailler un petit peu plus. On est un peu plus réputé pour... On a des massages de relaxation, mais on a beaucoup aussi de massages avec des tensions, donc des problèmes de dos, etc. Donc, on va débloquer. On n'est pas kiné, mais on a des techniques de massage pour ça... qui peuvent aider. Et c'est petit à petit, en fait, où les personnes, parce que à travers les formations aussi que je vais donner, tout ce que je raconte, tout ce que je peux raconter, donc il ne m'appartient pas, hein, loin de là, c'est des messages millénaires. Le plus important, c'est l'expérience. Il n'y a qu'à travers l'expérience qu'on va vraiment comprendre. Voilà, tant que vous n'aurez pas reçu de massage, alors si le massage est amené à vous faire du bien, comme je disais, il y en a pour qui ça ne va pas convenir, et ça, c'est très bien. C'est à partir du moment où vous allez faire l'expérience que là, vous allez sentir dans votre corps, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, il y a des choses qui peuvent se détendre. Tiens, oui, je me sens un peu plus calme, etc. Et puis, on va revenir une deuxième fois, puis une troisième fois. En général, la deuxième fois, déjà, le corps, il sait très, très bien, lui, ce dont il a besoin. Par contre, le filtre, celui qui nous empêche, en quelque sorte, c'est le mental. Le mental qui dit oui, mais non. Mais le corps, lui, sait très bien. Et en général, la deuxième fois, ben, quand la personne revient, ben, elle va être déjà beaucoup plus détendue, elle va être déjà plus à l'aise et plus en confiance. Parce que c'est aussi une des choses en massage très, très importante, la confiance. Parce qu'il n'y a pas besoin de mots pour ça, pour créer vraiment une relation de confiance. Et la relation de confiance, elle va être simplement à travers mon toucher. C'est-à-dire que si je pose la main, par exemple, et que je suis dans mon mental, comme je disais, je suis un être humain comme tout le monde, donc j'ai des moments aussi de stress à gérer. Mais si je suis, quand je suis dans la cabine, si je suis dans mon stress et donc si je suis dans mon mental... Quand je vais poser la main, tout l'influx nerveux va circuler à travers ma main. Et donc la personne ne va pas vraiment pouvoir se relâcher. Et cet état de confiance ne va pas pouvoir s'instaurer en fait.
Donc vous devez travailler sur vous avant une séance pour vous dire...
En permanence, en quelque sorte. En permanence. Okay. J'ai deux, trois outils et qu'on a justement à tous à disposition. Ça, c'est une des choses dont je parle aussi dans les formations, comme la respiration par exemple, qui est pour moi un des outils les plus fabuleux qu'on a à disposition, qui est gratuit. Et avec ça, avec cette respiration, je vais pouvoir modeler. C'est-à-dire, quand il y a des montées d'adrénaline comme ça, je vais pouvoir faire redescendre l'énergie dans mon corps. Et donc, je sais que ça va faire descendre aussi mon état de nervosité, simplement par la respiration. Et j'invite, c'est vrai, à travers toutes les formations que je peux donner, il y a deux, trois petites choses sur quoi déjà on peut travailler, toute personne peut travailler dessus. Quand on parle de respiration, alors dans toutes les techniques du corps, que ce soit donc le yoga, tai chi, qigong, etc., les arts martiaux, etc., on parle aussi beaucoup d'expiration. Pour vous faire comprendre aussi, c'est que dans notre corps, on a tous les éléments de base. Et une des choses que les gens peuvent assez facilement comprendre et ressentir, c'est les montées de le feu qui monte en nous. Vous voyez, ça monte, ça gagne notre tête. Et comme il y a beaucoup de gens dans une société assez mentale, avec beaucoup de projections sur beaucoup de choses, et donc quand cet état de feu monte vers le haut, puisque le feu a tendance donc à monter vers le haut, ça va nous prendre la tête et parfois ça peut aller jusqu'à l'implosion. Et bon, les conséquences dans notre société se font ressentir depuis quelques années, et ça n'est malheureusement, je pense, que le début, avec toutes les burn-out, les dépressions, etc. Justement parce que on n'arrive pas à gérer ces éléments qui sont déjà dans notre corps, en fait. Ce corps qui a besoin d'un équilibre, parce que si on est trop dans le mental, à un moment donné, une des choses sur quoi je répète aussi souvent dans mes formations, c'est que le mental, il est là, l'ego en quelque sorte, il est là, ça nous a aidé et ça nous aide tous les jours à nous construire, mais c'est pas lui qui doit être le gouvernant. Il est là pour nous servir, mais il n'est pas le maître. Le maître, ça se passe à un autre étage, plus bas, ça se passe au niveau du cœur. Et en fait, entre les deux, ces deux langages de monde complètement différents. Mais donc, pour en revenir un petit peu à la question de comment intéresser les personnes, c'est d'inviter en quelque sorte la personne. Tu peux venir pour recevoir un massage, voir si ça va te détendre un petit peu. Si, comme je disais, il y en a pour qui ça va fonctionner, d'autres pas. Et puis pour les personnes que ça va fonctionner, ils vont se rendre compte, ils vont rentrer dans une sorte de processus en fait. C'est un début de processus. Et ils vont prendre conscience petit à petit qu'effectivement, le corps, on peut travailler dessus, et puis on peut effectivement gérer certaines choses. Si je sens le feu monter, j'ai une technique par exemple pour faire redescendre le feu, qui est par exemple je vais expirer. Alors je vais vous prendre juste un petit exemple là du centre. Il y a parfois Voilà, je termine un massage. Donc là, je suis au bureau. Donc j'ai le client suivant qui est déjà dans la cabine qui m'attend. Et parfois, j'ai une personne qui veut un chèque cadeau, qui arrive, qui veut un chèque cadeau. J'ai le téléphone qui sonne. Enfin voilà, j'ai l'équipe à gérer. Donc il y a des, comme je disais, des montées d'adrénaline. Comme je disais tout à l'heure, si j'arrive dans la cabine et que je suis dans mon mental, ça va être très dur. Parce que quand je vais poser la main, je vais être à trembler et ça va être galère pour détendre la personne. Et donc pour ça, en simplement quelques secondes, je vais pouvoir faire descendre le niveau en quelque sorte de ce feu qui monte dans mon corps. Et je vais utiliser l'expiration. Donc je vais souffler et je vais avoir cette idée aussi. Si on peut y mettre de la pensée, plus on y met de la pensée, plus c'est conscient, plus ça va avoir d'impact. Et donc l'idée, c'est de faire descendre. Voilà, je vais expirer comme si j'expirais vers mes doigts de pied, vers le bas du corps. Vers le bas du corps. Et effectivement, quand on commence à faire l'expérience, on se rend compte que l'état de feu qui était là en train de, qui était sur le point d'imploser dans ma tête, je vais pouvoir réguler en quelque sorte et faire baisser un peu ce feu-là. Et je vais me rendre compte aussi que mes humeurs aussi vont se calmer.
C'est quelqu'un qui ne s'y intéresse pas et qui serait très très cartésien ou qui n'aurait pas du tout envie de s'y intéresser justement, ça doit être compliqué de faire comprendre ou en tout cas d'inviter à ça.
Voilà, d'inviter. Après, il n'est jamais question de forcer la personne. Chacun a son chemin de vie, en quelque sorte. Et si la personne n'entend pas maintenant, c'est pas grave. Peut-être jamais, mais peut-être que sur son chemin de vie, sur son parcours, elle va être amenée à un moment donné à peut-être passer par les massages ou par d'autres techniques, qu'importe. Mais qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. Où justement, c'est souvent un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand on veut contrôler chez la majeure partie des gens, il y a cette idée de contrôle, de contrôler un petit peu tout ça. Mais la vie, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est que justement, je contrôle pas tout, loin de là. Et que je permets justement ce non-contrôle à ce que ça soit dans ma vie aussi. Parce que si je veux tout contrôler à un moment donné, on va être bloqué au niveau mental, parce que du coup on va être un petit peu rigide. On dit ça et c'est pas ça, des choses bien tranchées. Et à un moment donné, on se rend compte que la vie, c'est le mouvement et c'est tout le temps en évolution. Et donc il y a peut-être des idées qui marchent et qui vous ont aidé maintenant, comme des béquilles aussi. Pendant des années, j'ai eu un traumatisme et pendant des années, mon corps s'est adapté pour pouvoir faire que ça soit vivable. Et ça va marcher pendant des années, puis à un moment donné, ça marche plus parce que ça continue d'évoluer, la vie continue d'évoluer et puis ça devient vos propres limites, vos croyances limitantes aussi. Et du coup, il y a des blocages. Ça amène des dépressions, des burn-out. Enfin, il n'y a pas que ça. Ça peut avoir des conséquences sur des maladies. Parce que toute cette expression dans notre corps, c'est en fait, c'est pas comme une punition, c'est pas comme une sanction. C'est juste là pour nous dire, il y a peut-être quelque chose qui va pas aussi bien que ça. Et c'est peut-être le moment de prendre conscience de...
C'est un message, quoi.
C'est un message. Et donc, après, on est libre d'écouter, d'entendre ce message. Donc, on peut très bien ne pas l'écouter. Le problème, c'est que, en général, ce premier message, il vient. Si on ne l'écoute pas, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais il va revenir d'une autre manière. Une puissance 10. Et pareil, on peut très bien occulter pendant des années. Et puis, à un moment donné, ça peut aller vraiment loin, loin, loin au niveau de la maladie. Très, très loin.
En fait, ça peut impacter... tout le monde. D'ailleurs, est-ce qu'on parlait de burn-out, de dépression beaucoup en ce moment? Est-ce que vous voyez, depuis 15 ans, c'est ça, 15 ans que vous êtes ici, est-ce que vous voyez que ça augmente les cas de dépression, de burn-out, pour les personnes qui viennent se rendre ici dans dans votre salon de massage, ouais. Vous ressentez qu'il y a, que ça bouillonne un petit peu à ce niveau-là?
Oui, ça bouillonne. J'ai beaucoup de plus en plus de personnes qui sont en reconversion, par exemple, qui ont une profession pendant des années, qui ne correspond plus. C'est un petit peu comme on parlait à l'instant de la vie qui est tout le temps en mouvement et qui est tout le temps en évolution. Je vous parlais des béquilles qui peuvent servir pendant un certain temps. Il y a un métier qu'on a choisi à 20 ans, 25 ans, qui ne va peut-être plus forcément correspondre à nos valeurs. Plus on avance, à 40, 50 ans, il y a parfois des grosses remises en question sur je travaille dans une société, ça n'est plus en équation avec mes propres valeurs. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui sont en remise, qui cherchent de nouvelles voies et qui veulent s'écouter, parce que plus on avance en âge, plus on veut aller vers l'essentiel. Bon, à 20 ans, 25 ans, on peut faire n'importe quoi, y a pas de problème, on a toujours l'énergie pour ça, mais avec le temps, il y a des choses qui nous ramènent à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Qu'est-ce qu'on vient faire ici sur cette terre? Et donc, effectivement, là, depuis des années, là, ça bouillonne beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, vous le sentez.
Et malheureusement, c'est que le début.
Oui, j'espère que vous vous trompez, mais je pense que vous avez raison.
La société est malheureusement un peu malade.
J'aurais aimé vous demander à propos de vos formations. Comment ça se passe? Comment vous gérez tout ça? Ça peut être à propos de quel sujet? Vous en faites combien par mois, par an? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde?
C'est vraiment ouvert à tous. Professionnel comme particulier. L'important, c'est la motivation. Après, j'ai tout un planning de formation. Il y en a 7, 8 peut-être que je propose maintenant. Donc ça comprend des massages. En formation, là, je propose le massage suédois, qui est un massage de tout le corps. Massage thaïlandais aussi, qui est un massage de tout le corps. Mais il y a aussi donc une formation pour le massage du crâne, pour la réflexologie plantaire, donc pour les pieds. Là, la semaine prochaine, là, je fais une formation de dos. Il y a également formation pour les mains, je crois. Il y a également massage assis. Donc le massage assis, ça se passe sur une chaise, et ça, on propose en général dans les entreprises. Donc ici, je propose à la fois des massages en cabine, des formations ateliers, et puis en entreprise aussi, on va de temps en temps. Donc c'est des petites séances de un quart d'heure en général pour une entreprise, ça se passe sur une chaise. Donc là aussi, je propose une formation. Et ça varie d'une formation à l'autre. Il y a des formations qui vont durer une semaine, d'autres une journée et demie. C'est très variable. Mais le plus important, c'est vraiment la motivation. Parce qu'en fait, là aussi, dans toutes mes formations, il y a un petit peu de théorie que je vais donner au départ pour un peu situer le cadre. Mais après, c'est que de la pratique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est l'expérience. L'expérience. Il n'y a que par le ressenti. Quand on vient faire une formation ici, on va recevoir aussi. Pour moi, c'est aussi important que de donner. Parce que le fait de ressentir, par les mots, je ne vais pas forcément réussir à transmettre tout ce que je veux transmettre. Par contre, par ma qualité de toucher, la forme de toucher que je vais employer, l'intensité, la force, etc. Là, la personne va le ressentir. Et elle va pouvoir après le retransmettre aussi.
D'accord. Est-ce que vous auriez une anecdote à raconter particulière qui vous sera arrivée dans votre carrière ici? Je pense que vous devez en avoir pas mal, mais...
Ça dépend sur quel...
Un moment qui vous aurait particulièrement marqué avec un client, une cliente, ou qui vous aurait marqué parce que c'était touchant ou drôle ou...
Il y en a plein. En bien comme en mal, parce qu'il y a eu aussi des expériences, mais qui m'ont forgé aussi. Au tout début, notamment, des expériences... Quand on commence à s'occuper un petit peu des autres, une des règles aussi, c'est d'abord de prendre soin de soi. C'est la première des bases. Prendre d'abord soin de soi pour pouvoir après soulager les autres, etc. Et puis, sur mon chemin de vie, justement, avant d'arriver ici en Belgique... j'ai eu 2-3 expériences assez déroutantes, justement liées à des choses comme de la magie noire, par exemple. Notamment, j'avais 2 personnes. Au tout début, que j'ai commencé mes massages, une personne qui revenait d'Afrique et du Bénin, notamment.
Ah oui, d'accord.
Et qui avait vécu avec le sorcier du village pendant plusieurs mois. Et voilà, elle avait un gros problème physique. Elle était revenue, elle avait perdu 30 kilos. Elle avait passé tous les scans en France. Les médecins ne voyaient rien, ne détectaient rien. Et donc moi, quand j'ai posé la main sur elle la première fois, c'était une décharge. J'ai parcouru vraiment comme un flux. Je me suis dit, oulala, il y a quelque chose qui se passe. Donc j'ai fait mon massage tant bien que mal. Et à la fin du massage, je lui ai demandé un petit peu, mais d'où tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc c'est là qu'elle m'a expliqué un petit peu, bah oui, en fait, je suis revenu depuis 2 mois ici en France et ça va pas du tout. Voilà, j'ai été voir tous les hôpitaux, j'ai passé tous les scans. Évidemment, tous les scans, on verra absolument rien. Donc c'est là que j'ai compris. Mais du coup, j'étais aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ben l'énergie, elle se transmet. Donc il m'a fallu quelques jours et puis une amie, voilà, qui m'a aidé à me libérer de ces choses-là. Ouais. Mais c'était un message aussi très salvateur parce que ça m'a permis de comprendre que, ok, tu veux t'occuper des autres, ben, il faut avoir conscience. Voilà, c'est pas pour faire peur, mais avoir conscience que, voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des fois, je vais faire un massage, ça va me remplir de joie, etc. Puis d'autres où ça va me bloquer, où ça va impacter mes humeurs. Mais après, c'est. Pour revenir au client, ben là, c'était dans le côté négatif. Côté positif, ben oui. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand... le plus important, en fait, dans mon existence, je pense, à travers les formations, mais aussi les massages que je peux donner, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, ils ont un pouvoir. Et vraiment un pouvoir de une souveraineté, en quelque sorte. Et j'essaye, voilà, de leur transmettre, en tout cas, de leur dire, ben oui, vous avez vraiment un certain pouvoir de gérer un peu votre corps et donc de gérer un peu vos émotions. Et à partir du moment, effectivement, où on commence un petit peu à travailler dessus, et là aussi, ça passe par l'expérience, on commence à voir certains résultats. Tiens, oui, là, je suis plus calme. Tiens, je suis plus apaisé. Tiens, là, j'arrive à me détendre moi-même. Waouh. Parce qu'à partir du moment où la personne va reprendre son autonomie, ben, elle échappe à tous les systèmes. C'est-à-dire que, je vais juste vous prendre l'exemple, oui, depuis 20 ans que je travaille sur mon corps, en quelque sorte. Alors, je suis arrivé ici en Belgique, j'ai pas de médecin traitant, j'ai pas été malade. Enfin, je veux dire, au niveau, pas eu de petits rhumes ou quoi que ce soit, j'ai eu juste un petit problème là, au niveau de la cheville, et puis des problèmes au niveau des reins. Mais donc, j'échappe au système de santé. Donc, enfin, on est dans un système où on voudrait assister les personnes. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont aller chez leur médecin et qui se déresponsabilisent en quelque sorte. On dit au médecin, ben, trouvez-moi, faites-moi une ordonnance. Voilà. Mais ce n'est pas forcément leur redonner le pouvoir. Ça peut calmer, oui, on va vous donner un médicament, mais ça ne va pas guérir la cause. C'est qu'un symptôme et puis ça va revenir. Et comme je disais tout à l'heure, ça risque de revenir, puis en plus puissant. Mais à partir du moment effectivement, on commence, où il y a une porte qui s'ouvre dans le mental et où on se dit, tiens, oui, tiens, et si je pouvais agir moi-même. Quand on commence à vivre cette expérience de l'intérieur, voilà, ben on peut. C'est pas le but, c'est pas d'être hors système, puisque je participe au système et je suis dans le système. Mais c'est d'avoir mon autonomie et d'avoir assez de recul par rapport à des choses. Voilà. Parce qu'on est dans une société où on a de plus en plus de personnes, alors par les réseaux sociaux, c'est très bien, il y a de très bonnes choses, je ne veux pas en dire du mal, mais on a beaucoup de personnes qui vont réagir justement avec le mental. Première réaction, voilà, on va liker, on va tac, 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 et parfois sans se rendre compte de l'impact que ça va avoir négatif, parce qu'il y a des personnes qui vont vous insulter, ou il y a des personnes qui vont... simplement parce qu'on a été dans la réaction. Et donc là, le but, après, moi, dans ma vie, c'est plus d'être en réaction. Et pourtant, j'ai un tempérament assez impulsif aussi, de l'intérieur. Mais c'est voilà, de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ça, parce que je sais que je ne vais pas y gagner, en fait.
J'aurais encore envie de vous poser beaucoup de questions, mais la principale et dernière question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une personne jeune ou moins jeune qui justement galère à trouver sa voie sur le moment, parce que voilà, comme vous l'avez dit, vous rencontrez des gens, la vie fluctue, etc. Vous avez trouvé votre voie à 40 ans. Quel conseil vous donneriez en fait pour des personnes, quel que soit leur âge, pour essayer de se rapprocher ou de trouver en tout cas un truc qui leur plaît et qui les fasse vibrer en fait ?
Là encore, c'est difficile de dégager une règle générale. Après, une chose sur quoi j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est tout ce qu'on reçoit, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition, il n'y a pas... Ce sont des épreuves, effectivement, ça peut être des épreuves, parfois... Mais toutes les épreuves, même celles qu'on pourrait voir comme négatives, en fait, vont nous apporter... Il y a du positif dedans. Et donc, en fait, même le... Ok, j'ai échoué là, plutôt que de se noyer dans un désespoir, en fait, il y a... Alors là aussi, c'est un processus, et donc ça va mettre un certain temps, mais c'est cette prise de conscience, tiens, ok, j'ai une dure épreuve, mais il va se dégager d'autres choses, en fait. Ça peut amener d'autres choses. Même si vous aviez une idée, tiens, je veux faire ça, et puis en fait, vous échouez. Mais la vie, en fait, ok, c'était peut-être pas forcément ici, ça va être un autre chemin. C'est d'avoir ça déjà en conscience, que ce n'est pas une punition et qu'au contraire, tous ces petits signes-là, ils sont là pour nous communiquer quelque chose. Et donc, après, avec l'âge et avec l'expérience, on peut rebondir plus facilement, mais on le voit, enfin, je veux dire, il faut être assez flexible. Et de plus en plus, ça va être ça, en fait. On n'a plus maintenant je vais vous prendre un exemple. Mon père par exemple avait une profession, il l'a eu à 20 ans, jusqu'à ses 60 ans, 40 ans, ça n'existe plus. Enfin, ça se fera très 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 rarement. On parlait tout à l'heure, hein, à 20 ans vous choisissez un métier et puis plus tard on voit que tiens, ça ne correspond plus forcément à nos valeurs. Et là aussi, ça met du temps. Enfin, je veux dire, à 20 ans, on ne sait pas toujours quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qui va nous amener le plus de joie. C'est de faire des expériences, d'expérimenter, et puis de ne pas perdre cette idée que, ok, même si ça ne marche pas là, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va faire que ça va rebondir sur autre chose, ou une connaissance qui va ou quelqu'un qui va m'orienter autre part, enfin, ou un coup de chance, ou une opportunité, et donc de garder l'esprit suffisamment ouvert en fait pour ça. Si on reste dans notre monde rigide et fermé, où on se dit tiens là je veux tout contrôler et je veux que ça marche, et très souvent c'est là que ça va pas marcher, parce que justement on permet pas en fait cet espace ouvert. Plus on ferme les choses, on les cloisonne, oui ça va peut-être marcher pendant un certain temps, petit temps, mais à un moment donné vous allez vous retrouver dans un carcan. En fait, vous aurez construit votre propre prison de l'intérieur et vous êtes fermé, et du coup le corps lui aussi alors là va être vachement impacté, parce que il y a plein de tensions qui vont se mettre du fait de ce que je vous disais, des organes qui sont très sensibles aux émotions, etc. Donc c'est de garder vraiment l'esprit ouvert. Et puis une chose aussi sur quoi c'est le pardon, c'est de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner en premier à soi-même, même si parce qu'on a tendance à se dire oui c'est la faute de l'autre, ou alors c'est de ma faute parce que je suis nul. On peut échouer à main, on a l'impression qu'on échoue, mais en fait comme je disais, il peut y avoir ça peut ouvrir sur d'autres choses si on reste ouvert. Justement, tous les signes sont là, mais y a des gens qui vont être assez ouverts, qui vont voir ces signes-là et qui vont pouvoir saisir ces opportunités. Mais si vous êtes fermé dans votre monde, vous n'allez pas les voir, ces signes. Vous allez vivre l'expérience, effectivement, d'enfermement. Petit à petit, vous allez vous ressentir un peu plus fermé, fermé, fermé. Puis à un moment, ça craque. Donc c'est de garder vraiment l'esprit ouvert, de voir, pouvoir saisir un petit peu toutes les opportunités. Et puis après, c'est aussi, enfin, dernière chose, pour justement aller dans le sens où c'est quelque chose qui va me plaire ou qui va m'apporter de la joie, c'est plus le langage de l'esprit, c'est plus le mental qui est au pouvoir. Je vous parlais tout à l'heure de serviteur, du mental qui doit rester serviteur et non pas le maître. Le maître, c'est le cœur. Et donc le cœur, vous avez... le choix entre deux, trois possibilités. Tiens, qu'est-ce qui fait écho mon cœur, qu'est-ce qu'il entend ? Vers quoi tout de suite je vais réagir ? Est-ce que c'est ça, ça ou ça ? Ah oui, tiens, c'est ça. Ah ok. Alors j'écoute mon cœur.
Et c'est compliqué pour le moment, j'ai l'impression. Enfin, pour beaucoup de personnes, c'est très. Il y a beaucoup le choix rationnel de se dire en fait, je vais choisir ce métier parce que mes parents m'ont poussé dans cette direction, ou parce que je vais gagner beaucoup d'argent, ou alors que voilà, on voudrait être. Enfin, faire autre chose, complètement à autre chose. En fait, on s'écoute pas. Et donc,
voilà. Et encore après, c'est même si on fait ce choix-là, ben, voilà, parce que mes parents, ou parce que l'argent, ou parce que c'est pas un problème. Voilà, il faut faire l'expérience. Et puis peut-être qu'à un moment donné, effectivement, voilà, ça va coincer. Et puis c'est là où on va avoir une prise de conscience. Voilà, c'est à partir de cette prise de conscience. Donc pour ça, il faut faire des expériences. C'est ce que je vous disais en préambule. J'ai mis 40 ans avant de trouver mon chemin. Et je ne regrette pas du tout les 40 années, parce que c'est tout ça qui m'a amené ben, là où j'en suis modestement. Enfin, je veux dire, ben, voilà, c'est un petit centre. Je suis à ma place, je sais que je suis à ma place. Et ce que je fais, ben, oui, je suis en accord, effectivement, aligné avec ce que.
C'est le principal, quoi. Trop bien, ben, on retiendra qu'il faut écouter son cœur, garder l'esprit ouvert.